Pour commencer, je vous prie tout de suite de m'excuser du caractère très improvisé des quelques mots que je voudrais vous dire ce soir, et auxquels j'ai donné le titre de causerie parce que ça sera quelque chose de familier et que je compte un peu sur vous pour remplir tout ce que je n'aurais pas dit. À la fin des litanies des saints, on récite le psaume 69, ce psaume qui dit « Mais que tous ceux qui vous cherchent, Seigneur, tressaillent d'allégresse et de joie, et que ceux qui aiment votre salut disent sans cesse que le Seigneur soit glorifié. Pour moi, je suis pauvre et indigent, ô mon Dieu, aidez-moi, venez à mon aide et soyez mon libérateur, Seigneur, ne tardez pas. » Le psaume nous dit que tous ceux qui cherchent le bon Dieu doivent se réjouir parce que c'est un des grands biens, c'est le grand bien de notre vie ici-bas, de chercher le bon Dieu. Et tous ceux qui veulent défendre la foi catholique, tous ceux qui veulent s'opposer au vent de la révolution qui souffle non seulement dans le monde, mais sur l'Église, eh bien, tout cela cherche le bon Dieu. Et pourtant, tous arrivent à des conclusions très différentes. Et il faut donc se demander où faut-il chercher le bon Dieu. Et je crois que c'est là l'origine de divergences très grandes. Il y en a qui vont chercher le bon Dieu dans les enseignements de Vatican II. Il y en a qui vont chercher le bon Dieu dans la pratique qu'on a l'habitude de faire depuis 40 ans, comme dans la fraternité Saint-Pilis. Il y en a qui vont chercher le bon Dieu dans leurs sentiments, dans leur avis, dans ce qu'ils appellent leur nez catholique. Il n'est pas très grand pour contenir le bon Dieu. Et je crois qu'il faut bien nous dire qu'il faut aller chercher la vérité du bon Dieu là où le bon Dieu l'a déposé. Dans la révélation, dans la Sainte Écriture, dans la tradition, qui nous sont transmis par le magistère catholique, par le magistère véritable de la Sainte Église catholique. Et si nous voulons donc être fidèles au bon Dieu, si nous voulons y voir clair dans les difficultés qui s'annoncent, eh bien, il faut que nous ayons cette volonté de nous référer sans cesse au magistère de l'Église et on pourrait dire, à lui seul, pour éliminer tout ce qui pourrait venir nous détourner de la voie du bon Dieu. Comme titre de cette causerie, j'ai mis les catholiques de tradition à la croisée des chemins, parce que même si on n'appartient pas à la fraternité Saint-Pilis ou qu'on n'en est pas fidèle, de fait, c'est cela qui représente aux yeux du monde, aux yeux du Vatican, aux yeux des médias, qui représente la tradition. Et vous savez qu'il y a des tractations, il y a des discussions, qui sont en cours, ou plutôt plus exactement, qui étaient en cours, et qui présentent une caractéristique qui, à mon avis, est très grave, c'est qu'il y a un grand absent, c'est la doctrine catholique. On parle de politique ecclésiastique, on parle de reconnaissance canonique, on parle de choses qui sont essentielles, qu'on peut lâcher, qui ne sont pas essentielles, mais on ne parle pas de doctrine catholique, et du coup, on n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien parce qu'on se trouve dans une situation qui est absurde, réellement absurde. Le Vatican, Benoît XVI, invoque des principes parfaitement catholiques, qui sont l'autorité du souverain pontife, qui sont l'infaillibilité du magistère, qui sont l'unité de l'Église, qui sont la dévolution de la juridiction par l'autorité, par injonction de l'autorité. Le Vatican invoque des principes qui sont parfaitement catholiques pour inviter la fraternité Saint-Pédis à adhérer à Vatican II et aux erreurs que le Concile Vatican II a enseignées, à ces erreurs très graves que l'Église avait auparavant condamnées, et donc auquel il est impossible d'adhérer. Et de l'autre côté, la fraternité Saint-Pédis ne veut pas adhérer à ses erreurs, et en cela, elle a parfaitement raison, mais comme elle y est invitée au nom de principes qui sont catholiques, l'infaillibilité du magistère, etc., eh bien, elle en vient à inventer de nouvelles doctrines, en disant que le magistère n'est pas infaillible, que l'obéissance n'a rien à voir avec la foi, que la juridiction dans l'Église peut être donnée, on ne sait pas comment, mais sans injonction de l'autorité légitime, et ainsi de suite. Et on se trouve nous avons sous les yeux une sorte de démonstration par l'absurde. Je ne vais pas vous faire un cours de mathématiques, mais Lorsqu'on veut démontrer une vérité, parfois on utilise une démonstration par l'absurde. On suppose que cette vérité est fausse, et cette supposition conduit à des conclusions, à des conséquences qui sont absurdes, et cela permet de montrer que cette vérité est vraie. Parce que si on la suppose fausse, eh bien ça conduit à des absurdités. Et là, nous nous trouvons dans une situation où nous voyons véritablement une démonstration par l'absurde. C'est l'impasse totale. D'un côté, il y a une volonté catholique et des principes non catholiques. Et de l'autre côté, il y a des principes catholiques et une volonté non catholique. Et puis tout cela se mélange. Et c'est là quelque chose d'extrêmement grave, parce que dans cette confusion, il va y avoir deux victimes. La première victime, c'est la doctrine catholique. La deuxième victime, eh bien, c'est le peuple chrétien, qui n'y comprend plus rien, qui se décourage, qui ne sait plus ce qu'il faut croire, qui ne sait plus ce qui est important, pour lequel s'évapore la parole de l'Évangile « est, est, non, non, ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas ». Ah non, mais ce qui est peut devenir objet de tractation, ce qui n'est pas peut devenir objet de diplomatie, et ainsi de suite. Et il y a une confusion mentale, une confusion dans la foi qui est très grave. Alors mon propos n'est pas du tout de vous dire « voilà ce qu'il faut faire, voilà les prophéties que je pose, et je suis le nouvel ayatollah qu'il faut suivre, et le nouveau gourou infaillible », pas du tout. Mais simplement, c'est de faire mesurer, que nous mesurions la gravité de ce qui est en jeu. Vous savez que les documents qui sont marqués confidentiels sont faits pour être divulgués. Et quand c'est très confidentiel, c'est pour être divulgué très vite. Alors, et il y a eu hier, c'est pas vrai, donc une lettre envoyée par Mgr Fellay, enfin au nom de Mgr Fellay, par son secrétaire, l'abbé Touvenot, à une lettre confidentielle, document interne, au supérieur de district, de séminaire et de maison autonome. Alors vous n'êtes pas supérieur de district, ni de séminaire, ni de maison autonome, mais de fait cette lettre est parue sur Internet, la plus grande conciergerie du monde, et elle a été diffusée, et cette lettre contient trois points, dont le premier, je trouve, est particulièrement grave. Mgr Fellay dit qu'il rompt les négociations, parce que le nouveau document qu'on lui propose est clairement inacceptable. Mais il ne dit pas pourquoi, en quoi ce document est inacceptable. Depuis des mois, on amuse les catholiques avec un préambule doctrinal dont personne ne connaît le contenu. Et on engage beaucoup de prêtres de la fraternité, beaucoup de fidèles sur un document dont ils ignorent le contenu, comme s'il ne s'agissait pas de la foi, comme s'il ne s'agissait pas du témoignage de la foi, le fait que le bon Dieu nous ait donné à chacun d'entre nous la foi là, au jour de notre baptême ne nous rendait pas capables de comprendre ce qui est conforme à la doctrine et ce qui ne l'est pas. On comprend que dans des négociations diplomatiques, il y ait un secret, qu'on veut éviter de révéler les choses, mais il ne s'agit pas de diplomatie, il s'agit de doctrine, il s'agit de foi, il s'agit de la vérité qui sauve, de la vérité qui est nécessaire au salut, et on n'en sait rien. Et si on se demande pourquoi Mgr Fellay rompt les négociations, eh bien, il y a quatre possibilités. La première possibilité, c'est qu'on lui demande d'adhérer à Vatican II, ce qui est quand même le plus probable. D'adhérer à Vatican II, ce qui serait adhérer à des erreurs, mais ce qui est le plus logique. C'est un concile œcuménique. Si c'est un véritable concile œcuménique, c'est le magistère suprême de l'Église, c'est la vérité infailliblement enseignée. Chaque fois que le concile Vatican II fait révérence à la révélation, en disant cette vérité est révélée, ou cette vérité est nécessairement liée à la révélation, de soi, c'est infaillible, ça devrait être infaillible. Mais ça peut être aussi parce que il n'y a pas dans ce préambule doctrinal une nette distinction entre le doctrinal et le pastoral. Je ne l'invente pas. C'est Mgr Fellay qui avait affirmé ceci. Aujourd'hui, je dois à l'objectivité de reconnaître qu'on ne trouve pas dans le préambule doctrinal une distinction tranchée entre le domaine dogmatique intangible et le domaine pastoral soumis à la discussion. On met là le doigt sur un des plus grands poisons qui empoisonne les catholiques depuis 50 ans. cette distinction fallacieuse entre doctrinale et pastorale. Elle est fallacieuse parce que le pastoral, c'est ce par quoi l'Église paie le troupeau, conduit les âmes au ciel, et que le premier bien que donne l'Église pour les conduire au ciel, c'est la doctrine, c'est la foi, c'est la vérité révélée par notre Seigneur Jésus-Christ. Le catéchisme de Saint-Pie-X écrit ceci: les moyens de sainteté et de salut éternel qui se trouvent dans l'Église sont la vraie foi. Premièrement, le sacrifice, le Saint-Sacrifice de la messe, les sacrements, et puis les secours spirituels réciproques, la prière, le conseil, l'exemple. Le pastoral de l'Église, c'est la doctrine. Et on nous dit, ah mais le concile est pastoral, c'est pas doctrinal, ce sont deux choses différentes, ça n'a pas grand chose à voir. Le doctrinal, on ne peut pas y toucher, mais le pastoral, lui, eh bien, il est sujet à discussion. Et cette distinction fausse empoisonne les esprits, pas les esprits des conciliaires, les esprits de ceux qui veulent résister aux erreurs conciliaires. C'est là quelque chose d'extrêmement grave. Et il y a dans cette distinction une deuxième chose qui est très grave aussi, c'est d'imaginer que le pastoral, c'est-à-dire les moyens que l'Église utilise pour conduire les âmes, bien, c'est sujet à discussion. Il y a eu au XVIe siècle, sept théologiens de Venise qui ont introduit cette discussion en disant on n'est pas obligé d'obéir au pastoral, il n'y a que le doctrinal qui fasse loi dans l'Église. Et ces sept théologiens ont été condamnés par l'Église et ils ont été traités d'hérétiques par Saint-Robert-Bellarmin, par exemple. Mais Saint-Robert-Bellarmin qui cite à la barre Saint Basile, Saint Jean Chrysostome, Saint Jérôme, Saint Grégoire le Grand, Saint Antoine, Saint Macaire d'Égypte, Saint Benoît, Saint Jean Climaque, Saint Césaire d'Arles, Saint Bernard, Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure, Saint Augustin, tous les élites d'Orient, et puis tous les papes et les docteurs. Et c'est devenu une sorte de vérité traditionnelle. Le pastoral est soumis à discussion. On n'est pas obligé d'obéir. L'obéissance n'a rien à voir avec la foi. Eh bien, c'est le pape Pie XI qui affirme dans, je crois que c'est dans Mortalium Animos, qu'on ne peut pas demeurer dans l'Église sans l'obéissance. On ne peut pas demeurer dans l'Église sans l'obéissance parce que l'Église non seulement nous donne la vérité, mais elle nous conduit. L'Église a reçu de notre Seigneur Jésus-Christ trois pouvoirs. Le pouvoir d'enseigner, aller enseigner toutes les nations. Le pouvoir de sanctifier, le pouvoir de donner les sacrements. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis le pouvoir de conduire les âmes, le pouvoir pastoral. Et apprenez-leur à observer les commandements que je vous ai donnés. Et donc, il est possible, je n'en sais rien, parce que je n'en sais pas plus que vous. La différence c'est que je parle et que vous vous taisez, donc c'est vous qui avez raison, parce que je n'en sais pas plus que vous. Il est possible que le refus de Mgr Fellay de ce préambule doctrinal soit l'absence de distinction entre le doctrinal et le pastoral. Et si c'est cela, alors c'est très grave, parce que l'Église ne distingue pas. Elle distingue bien son pouvoir de magistère et son pouvoir de juridiction, mais pour elle, c'est le pouvoir reçu de notre Seigneur Jésus-Christ qui se distingue en trois pouvoirs, et c'est la même chose. Il y a une troisième hypothèse pour laquelle Mgr Fellay aurait rompu provisoirement les discussions, et c'est ce qu'il a dit lors d'une interview pendant le pèlerinage de Chartres. Petite interview sur fond de feuillage. Quelques minutes, l'intervieweur lui demande où en sont les négociations avec Rome. Il dit, il n'y a rien de nouveau, nous sommes dans l'attente. Et il dit, et puis si Rome nous laisse notre identité, alors nous pouvons faire des accords. Mais si Rome ne nous laisse pas notre identité, alors ça ne vaut pas la peine. Autrement dit, notre combat se réduit à une seule chose, le point crucial, non pas le point unique, mais le point crucial, c'est notre identité. Rome est absoute si on nous laisse notre identité, les erreurs deviennent vérité, les monstruosités deviennent la normalité, mais si on nous laisse notre identité. Et si on ne nous laisse pas notre identité, alors cela nous donne le droit de ne pas obéir, le droit de nous donner à nous-mêmes la juridiction, le droit de continuer dans notre coin. Et c'est là quelque chose de terrible. Ça rappelle très précisément la parole qu'avait eue Jean Madiran vers 1980 en disant, en fait, au fond, ce que nous défendons face au Vatican, face au Pape, face au Vatican, ce que nous défendons, c'est notre famille spirituelle. Et de citer le Père Emmanuel, enfin, tous les gens honorables. Mais comme si défendre une famille spirituelle était un motif suffisant pour s'opposer à ce qu'on reconnaît être l'autorité, être le magistère, être le pouvoir même de Jésus-Christ. Mais si on prend l'exemple de tous les saints dans toute l'histoire de l'Église, eh bien, ils auront préféré perdre leur famille spirituelle plutôt que de désobéir. Et donc c'est encore quelque chose de très grave. Il faut s'opposer aux erreurs, aux nouveautés de Vatican II, il le faut absolument, mais au nom de motifs qui soient proportionnés, et non pas de motifs qui soient des motifs humains. Et puis, il y a une quatrième hypothèse, c'est que le Vatican est très rigoureux, on pourrait presque dire maximaliste, mais sur la doctrine du magistère, précisément. En disant que quand le pape parle, eh bien, il faut croire que quand le magistère de l'Église se prononce, il faut adhérer toute son âme, même si elle ne dit pas que c'est directement révélé, mais qu'elle veut prononcer un jugement, un jugement, il faut adhérer toute son âme. Et peut-être c'est cela qui fait refuser ce préambule doctrinal. Mais là encore, c'est très grave, parce que ça, c'est catholique. C'est catholique, c'est depuis Saint-Pierre jusqu'à pendant toute l'histoire de l'Église, c'est catholique. Alors, je ne sais pas ce qui a fait que les discussions sont rompues. Je ne pleure pas du tout parce que les discussions sont rompues. Je me demande quel motif a pu faire cela. Et c'est là quelque chose donc qui est, à mon avis, est très grave, parce que c'est la vérité catholique qui s'en va. Et donc, il faut que nous nous rendions compte que la situation à laquelle nous sommes arrivés est absurde. Absurde parce que, finalement, c'est comme si nous avions le choix entre une solution à moitié catholique et à moitié hérétique, et une solution à moitié hérétique et à moitié catholique. Et on se dit, ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est impossible, il y a une erreur quelque part. Et cette erreur, eh bien, nous essaierons de la déterminer. Je continue dans la lettre de Mgr Fellay, où il dit donc qu'il a rompu les négociations. Et le deuxième point qu'il dit, c'est que Mgr Williamson est puni, c'est un vilain garçon, en raison du canon 2331, paragraphe 1, qui est le code de droit canon, celui de l'Église, celui de 1917, et puis à la référence au nouveau code de droit canon. Et, excusez-moi, mais ça fait rire. Ça fait rire parce que la Fraternité Saint-Pédis ignore totalement le droit canon. Elle ne sait même pas auquel il faut se référer, si c'est le vrai, si c'est le faux, si c'est le nouveau, si c'est l'ancien. Si elle ne sait pas. Et elle agit comme si elle avait une existence canonique. Or, ce qu'il y a de plus clair, c'est que la Fraternité Saint-Pédis n'a pas d'existence canonique. Je ne lui reproche pas, moi non plus. Hein. Ce n'est pas du tout pour lui reprocher. Mais la différence, c'est que je ne fais pas semblant. Elle a été fondée en 1970 dans le diocèse de Fribourg par Mgr Charrière, qui était, autant que je sache, le véritable évêque de Fribourg. Elle a été fondée en 1970 pour une période d'essai, ad experimentum, de 6 ans, reconductible pour 6 nouvelles années par tacite reconduction. Or, en 1975, c'est-à-dire 5 ans après, le successeur de Mgr Charrière, Monseigneur Mami, qui lui était dont le pouvoir était déjà plus douteux, Monseigneur Mami a dissous la Fraternité Saint-Pédis. Et la Fraternité Saint-Pédis a dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, il n'y a que le pape qui peut le faire. Je ne discute pas de ce fait-là, mais ce qui est sûr, c'est que l'année suivante, il y a eu 6 ans de passé, et qu'il n'y a pas eu de tacite reconduction, parce qu'il n'y a pas eu de silence. Il n'y a pas eu de tacite reconduction. Et encore, même si on l'admettait, au bout des nouveaux 6 ans, c'est-à-dire en 1982, eh bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce que cette période d'essai devait être transformée en une période d'approbation définitive. Et il n'y a plus rien, et donc, canoniquement, la Fraternité Saint-Pédis n'existe pas. Encore une fois, je ne lui reproche pas. Je lui reproche de faire semblant, d'avoir le pouvoir d'incardiner, d'avoir le pouvoir de... Et alors, tout d'un coup, on ressort le droit canon, on s'en souvient, pour punir un membre, mais de quel droit ? De quoi ? Ça ne correspond à rien. Alors, qu'on dise que Mgr Williamson était un grand vilain, etc., il a des choses pas bien, puis il fait de l'opposition, on ne veut plus le voir, mais qu'on n'invoque pas le droit canon. Parce que il y a deux poids, deux mesures. À l'égard de Benoît XVI, qu'ils reconnaissent comme pape, il n'y a plus de droit canon. Mais à l'intérieur de la fraternité, alors il y a encore un droit canon. Et les membres de la fraternité qui ne marchent pas, qui ne reconnaissent pas l'autorité, qui sont fêlés vacantistes, ces membres-là se voient opposer le droit canon. Et il y a une absurdité. La situation est très difficile, mais je dis, la première chose, c'est de reconnaître les faits. Le colonel de Binière, je ne parle pas de son fils, mais le colonel de Binière, qui était un des plus brillants officiers de l'armée française, disait à propos de la guerre moderne, disait, la première chose, c'est de reconnaître l'état de guerre. Les gouvernements successifs qui font semblant de ne pas reconnaître l'état de guerre, qui disent il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas en France des mouvements révolutionnaires, il n'y a pas de banlieue, il n'y a rien, tout va bien. Ça désarme tout et tout le monde. Il n'y a aucune solution parce qu'on ne veut pas reconnaître l'état de guerre. Mais je crois que c'est vrai dans l'Église. La première chose, c'est qu'il faut reconnaître l'état de guerre. L'Église est dans une période très difficile, dans une période où une religion a envahi les structures de l'Église et veut prendre sa place, et pour lesquelles il faut se défendre de toutes ses forces pour rester fidèle au bon Dieu. Mais la première chose, c'est de le reconnaître et ne pas faire semblant d'être dans la légalité. Si vous vous faites attraper par la patrouille, par les gendarmes, parce que vous roulez trop vite et que vous avez mordu sur une ligne blanche, la première chose, si vous voulez un peu d'indulgence, c'est de le reconnaître. Sinon, vous n'aurez pas d'indulgence. Eh bien, là, il faut reconnaître les faits. Nous sommes dans l'illégalité parce que nous voulons défendre la foi. Et que, il faut le reconnaître. Et pas faire semblant de tordre les principes du droit, de tordre les principes du magistère et de l'obéissance pour dire, mais finalement, tout va bien. Et nous avons raison. Et les autres ont raison en même temps. C'est pas possible. Et donc, ça fait un peu rire de voir invoquer le droit canon. De voir invoquer le droit canon par une société qui s'en moque complètement. Et puis, le troisième point, eh bien, c'est que Mgr Fellay décide de suspendre, d'annuler, de suspendre, de retarder les ordinations de deux communautés religieuses, les Dominicains d'Avrier et les Capucins de Morgon. Je n'ai pas de neveu qui devait être ordonné, ni de cousin, mais pour dire que c'est très grave à l'intérieur. C'est une véritable déclaration de guerre. Et ces communautés avaient commencé à dire gentiment que c'est elles qui prenaient l'initiative. Mais l'initiative vient qu'elles ont reçu jeudi dernier une lettre en disant pas la peine de vous présenter à Écône, vos sujets ne seront pas ordonnés. Il y a peut-être autre chose après le point, mais la lettre disait cela. Et donc, ce retard aux ordres lui a simplement été dicté par le souci de s'assurer de la loyauté de ses communautés. Traduction en langage courant, ça c'est du langage ecclésiastique, c'est que rentrer dans le rang, sinon c'est fini. Voilà. Donc, elles ont été prévenues jeudi dernier. Jeudi dernier, en disant vos sujets ne seront pas ordonnés. Et c'est donc, on peut dire, une déclaration de guerre intérieure entre les divers mouvements traditionnels, et donc montrant qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe. Alors, devant cet état de fait, je crois, comme je vous disais, qu'il faut essayer de revenir vraiment à la doctrine catholique. Lorsqu'on est dans le brouillard, parce que parfois il y a des brouillards à couper au couteau, on n'y voit rien. La première chose, c'est de ne pas changer la carte. Si on a une carte en disant, ça ne correspond plus à la réalité que je vois, alors je change la carte. Et il ne devrait pas y avoir une rivière ici, alors Je barre la rivière sur la carte et je roule tout droit quand même et je fais pouf. Et donc, la première chose dans le brouillard, c'est de voir ce qui ne change pas. Notre Seigneur Jésus-Christ a promis à son Église l'indéfectibilité, c'est-à-dire qu'elle serait la même, de la même doctrine, des mêmes sacrements, de la même hiérarchie, de la même apostolicité jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ revienne dans la gloire, l'Église ne changera pas. Ça, c'est une donnée de foi absolument intangible. Et c'est une chose qu'il faut garder absolument. Ce n'est pas parce que tout d'un coup on n'y comprend plus rien qu'on va se mettre à changer. Le bon Dieu comprend parfaitement, si j'ose dire, que quelqu'un n'y comprenne plus rien. Le bon Dieu sait bien l'épreuve de la foi, la difficulté, la faiblesse de notre intelligence et le nombre d'interférences qu'il peut y avoir entre nos passions, nos habitudes, nos obligations, notre devoir d'État, etc. Qu'on n'y comprenne plus rien, ça se comprend. Mais la première chose, c'est dire ça ne change pas. La doctrine de l'Église ne change pas. L'Église ne change pas. L'unité de l'Église ne change pas. Tout ça, ça ne change pas. Si on commence à dire, il faut atténuer la doctrine de l'Église sur le magistère. Il faut revoir la doctrine de l'Église sur l'unité de la hiérarchie. Il faut accommoder... Stop. Déjà, on est sûr qu'on est sur une mauvaise pente. Il faut s'attacher absolument à ce qui ne change pas. Deuxième chose, eh bien, il faut considérer les choses à la lumière de la foi, c'est-à-dire commencer par éliminer tout ce qui est des bruits de couloir, la dernière révélation faite au cours du dernier exorcisme par le dernier, que sais-je encore, tout ça, parce que cela ne va pas nous guider dans la foi. Ce qui va nous guider dans la foi, c'est le magistère de l'Église, c'est la doctrine de l'Église. C'est cela qui va nous éclairer. Et nous savons que le bon Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. Non seulement des tentations ordinaires, des tentations de gourmandise, ou des tentations d'avarice, ou des tentations de la chair, ou des tentations de paresse, que sais-je, mais aussi la tentation de la tentation d'abandonner, ou la tentation de ne plus rien comprendre à la foi. Et donc il y aura toujours, dans le magistère de l'Église, il y aura toujours la lumière nécessaire, non pas pour avoir une vue éclatante, ça y est, j'ai tout compris, bon, stop, du calme, mais pour pouvoir se guider, pour pouvoir marcher dans la vérité catholique, dans le chemin du salut, sans nier, sans diminuer, sans égratigner aucune vérité de foi. Et pourtant, en gardant fidèlement la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ et en marchant dans la voie de ses commandements. Il y a un moyen. Et ce moyen, c'est celui que je vous disais en commençant, c'est ce moyen d'aller chercher la vérité où elle se trouve, dans le magistère de l'Église. Et donc, s'il y a une obligation supplémentaire qui nous incombe, c'est d'étudier la doctrine catholique. Et de l'étudier dans le magistère, pas dans l'étudier dans le dernier abbé qui a parlé, même si, surtout si c'est l'abbé Belmont. C'est d'étudier la doctrine catholique dans le magistère, et dans l'enseignement des papes, dans l'enseignement de la tradition de l'Église. Parce que cela, c'est la vérité catholique, cela ne change pas. Et il ne s'agit pas de la diminuer, de l'accommoder, que sais-je encore, il s'agit d'en recevoir la lumière en disant, c'est la vérité que je dois suivre. Et je comprends pas bien, je ne vois pas à plus de 2 mètres devant, mais ça me permet de marcher, faire au moins 2 mètres. Et dans 2 mètres, je verrai encore 2 mètres. Je vais peut-être pas marcher bien vite, mais je marcherai. Alors c'est là quelque chose de très important. Donc l'Église ne change pas. La constitution de l'Église ne change pas. L'unité de l'Église ne change pas. Le magistère de l'Église ne change pas. Ça, c'est sûr. L'ordre sacramentel ne change pas. Et ensuite, eh bien, il faut reconnaître les faits. Les faits qui nous sont montrés en ouvrant les deux yeux, en ouvrant les oreilles, en regardant ce qui se passe, c'est que depuis 50 ans, eh bien, tout a changé. Imaginez quelqu'un qui se soit endormi dans son congélateur il y a 50 ans, et qui se réveille aujourd'hui. Et ben, c'est dimanche, il va à la paroisse, et il rentre dans la paroisse, on dit, mais je me suis trompé, je suis allé au temple protestant, c'est pas possible, d'abord il n'y a plus personne, ils sont tous passés, tous. Et, je me suis trompé d'heure, c'est pas possible. Et puis il verra tout d'un coup une liturgie dans laquelle il ne reconnaîtra rien. Il dira, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand il va écouter le sermon, il dira, mais... Dans le temps, on nous parlait de Dieu, du salut éternel, du ciel, de l'enfer, de la Sainte Vierge Marie, des commandements de Dieu. Maintenant, on nous parle, je ne sais pas quoi, de mille choses. Ben, voilà. Et il dira, il y a quelque chose qui a changé. Il y a un changement profond, radical, que beaucoup de gens n'ont pas vu parce qu'il s'est fait petit à petit, mais qui est réel. Et qui est réel. Il y a régulièrement des sondages qui n'ont pas plus de valeur que des sondages, mais à la sortie des églises, pour savoir, vous demandez aux gens, est-ce que vous croyez à la présence réelle de Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie? Est-ce que vous croyez à l'existence de l'enfer? Est-ce que vous croyez? Mais des gens qui vont à la messe, combien croient, c'est-à-dire ont la foi catholique? À les entendre, je ne veux pas le bon Dieu pour les juger au fond d'eux-mêmes, à les entendre, il n'y en a pas 10%. Il n'y en a pas 10%. Et c'est là quelque chose de terrible. C'est laquelle, parce que la foi catholique est un tout. Elle est indivisible. Si, comme dit Léon XIII, repris par Benoît XV, s'il y a une vérité de foi qu'on refuse de croire, on ne croit à aucune. On sera persuadé de la vérité de beaucoup de la vérité de beaucoup de vos propositions de foi, mais on les croira par opinion humaine, et non pas par foi divine, par lumière de la foi, par la vertu théologale de foi, parce qu'on aura déserté cette lumière de la foi en ne voulant pas croire, ne serait-ce qu'à un point. Et le fait est que la foi s'est perdue. Là, la foi s'est perdue, non pas qu'il y a encore beaucoup de gens extrêmement braves qui croient avoir la foi, mais s'ils prennent le catéchisme, dire, est-ce que je crois vraiment à tout ça, que c'est la vérité, que c'est bien comme cela que ça se passe, qu'il y a bien au ciel un seul Dieu en trois personnes, que le Fils de Dieu s'est incarné, que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, et qu'il va revenir pour juger les vivants et les morts, mais qui le croit encore? Il y en a, Dieu merci. Mais c'est plus la majorité, et tout a été accordé à cela. On a assisté à qu'on a appelé, je vais dire qui est on, mais une religion de l'homme. C'est pas, ce on, c'est pas le 6. Et nous, a-t-il déclaré, c'est le 7 décembre 1965, si mes souvenirs sont bons, et nous, plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme. La religion de l'homme, où l'important, c'est que l'homme s'épanouisse, que l'homme soit libre, que l'homme soit digne, que l'homme soit... Je ne suis pas partisan d'un non-épanouissement de l'homme, ni de l'esclavage, ni de la... l'objet de la religion, c'est Dieu. Dieu à adorer, Dieu à croire, Dieu à aimer par-dessus tout, Dieu auquel on doit obéir. Et tout cela, ça a disparu. Ça n'a pas totalement disparu, Dieu merci, mais ça a disparu d'une bonne partie de la surface de la Terre, par l'effet d'une véritable révolution conciliaire. Où de 1962 à 1965, eh bien, 2300 et quelques évêques se sont réunis, et ils se sont réunis avec la volonté de quelques-uns, mais qui a dominé tous les autres, avec la volonté de quelques-uns de changer la religion. Prenez un exemple, je ne crois pas qu'il est encore cardinal, Monseigneur Albino Luciani, futur Jean-Paul Ier, qui a un jour écrit: quand je suis entré à Vatican II, j'étais persuadé que la liberté religieuse était condamnée par l'Église, qu'il n'y a pas un. Et je suis sorti de Vatican II persuadé que la liberté religieuse était la doctrine de l'Église. Et combien avec lui? Combien avec lui? Ça a été une sorte d'immense recyclage. L'œuvre de Vatican II, c'est un immense recyclage où la doctrine a changé. Et où l'on voit, quand on étudie les actes de Vatican II, l'opposition aux nouveautés, forte au début, diminuée. En 4 sessions, elle est devenue quasiment nulle. Elle est devenue quasiment nulle. Parce que petit à petit, ça, il y a des vieux évêques qui mouraient, c'est pas de leur faute, et c'était une grâce du bon Dieu pour eux. Petit à petit, eh bien, ces nouveautés grignotaient et tout. Et même, il y avait encore, à la fin de Vatican II, une opposition avec des évêques, à l'opposition très forte, dont nous avons perdu les noms, Monseigneur Carli, Monseigneur Poensasigo, des gens au discours extrêmement vigoureux contre toutes les nouveautés, et après Vatican II, ils ont disparu. Et ils ont disparu, ils ne sont restés que Monseigneur Lefebvre, et honneur à lui pour l'éternité, et Monseigneur de Castromayeur, qui a encore dit, mais c'est pas possible, c'est hérétique. Je me rappelle Mgr Lefebvre disant qu'il était à Rome au discours de clôture du concile, je crois que c'est celui du 8 décembre 65, qui est vraiment la clôture, se disant en lui-même, mais c'est hérétique. C'est tout à fait contraire à la foi ce que Paul VI est en train de nous dire. Mais il ne l'a pas dit pendant des années. Alors il faut, mais il y a un état de fait, on ne peut pas se boucher les yeux, parce que tout a changé. Tout a changé et que ça n'a pas changé dans un sens qui est conforme à la foi catholique, conforme à la doctrine catholique, ça a changé dans un sens de révolution. Et que nous sommes là-devant et que nous ne pouvons pas accepter cela. Et en même temps, nous ne pouvons pas accepter de le faire au nom de principes que l'Église a toujours condamnés. Et alors il faut reconnaître le fait que nous sommes dans un cas, eh bien un cas que les théologiens ont étudié tout au long de l'histoire de l'Église, parce qu'il y a eu d'autres crises de l'Église, pas si profondes que celle-là, mais il y en a eu, et dans un cas d'absence d'autorité, où l'Église a toujours son autorité fondamentale, évidemment, qui est Jésus-Christ, mais n'a plus l'autorité vicaire, qui est celle du souverain pontife. C'est le pape Pie XII qui dit, ce n'est pas le pape qui gouverne l'Église, c'est Jésus-Christ qui la gouverne, habituellement et visiblement, par le pape. L'autorité de l'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est la tête de son corps mystique. Il a sur la terre une autorité vicaire, c'est-à-dire une autorité qui prend sa place. Et cette autorité vicaire, elle est pleinement vicaire, puisque notre Seigneur a dit à Saint Pierre, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Eh bien, on peut dire que depuis Vatican II, sans chercher plus de précision, nous sommes dans une situation où plus rien n'est lié, ni plus rien n'est délié dans les cieux, parce que plus rien n'est lié, ni plus rien n'est délié sur la terre. Et que nous nous trouvons dans cette sorte de situation figée, où tout continue à exister par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais où les autorités inférieures, les autorités vicaires et tout ce qui en dépend, eh bien tout cela ne s'exerce plus. Situation monstrueuse, situation impossible, situation qui fait peur à plus d'un, à commencer par moi. Mais on ne peut pas sortir de cela. Sinon, je vais lier un point ou l'autre de la doctrine catholique. Si je dis, je reçois Vatican II, c'est un concile œcuménique de l'Église, il y avait le pape, il y avait tous les évêques, ils ont promulgué ça en disant que c'était la révélation divine, etc. Alors je vais croire qu'il n'y a pas d'identité entre l'Église catholique et le corps mystique de Jésus-Christ. Mais pardon, c'est la foi catholique qui me le dit. C'est Saint Paul, pour commencer. C'est le pape Pie XII qui a fait toute son encyclique Mystici Corporis autour de cette idée-là. Il y a identité parfaite entre l'Église catholique et le corps mystique de Jésus-Christ. Or, depuis Vatican II, non, il n'y a plus identité parfaite. L'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique comme sa partie la plus organisée. Mais dire, elle subsiste aussi chez les schismatiques orientaux, chez les protestants, de façon moins organisée, de façon moins complète, mais elle subsiste aussi. L'Église n'est pas est, non, non, on est membre de l'Église ou on ne l'est pas. Mais c'est, oui, il y a du plus, il y a du moins. Et ça, l'Église a toujours condamné. On est membre de l'Église ou on ne l'est pas. Au jour du jugement dernier, on le verra parfaitement. On appartient à Jésus-Christ, on appartient à son Église, et on ne l'appartient pas. Eh bien, alors, si j'accepte Vatican II, il va falloir que je croie ça. Mais c'est pas possible. Ah oui, mais vous comprenez mal, c'est pas ce qu'ils ont voulu dire. Bon, mais c'est pas un point comme ça. C'est un point, deux points, trois points, dix points, etc. Ou à entendre l'ancienne alliance que notre Seigneur Jésus-Christ a supprimée. Continue à exister, et tout. Il n'y a plus de réprobation de ceux qui ont refusé, des juifs qui ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ, et tout comme ça. Et la liberté religieuse, et les religions, Vatican II a dit son admiration pour les religions, l'islam, le judaïsme, etc. Ils ont oublié la religion de la boîte de sardines rouillée, mais c'est un oubli regrettable. Et c'est quelque chose de terrible. Et tout a changé comme cela. Tout a changé. Dans la constitution Dei Verbum sur les sources de la révélation, La tradition apostolique, c'est transmission depuis les apôtres de la vérité par l'Église, de la vérité révélée, a disparu. Il y a une mention au départ, et puis après, fini. Et puis, il y a eu toute la réforme liturgique, avec ce vent de folie extraordinaire. Nous sommes 50 ans après Vatican II, alors il y a que les gens qui ont plus de 50 ans qui peuvent se souvenir. Mais le Vatican II n'est pas simplement un ensemble de textes. Ouais. Mais ça a été une chute terrible. Vatican II, c'est plusieurs dizaines de milliers de prêtres qui ont défroqué. En 3 ans, c'est plusieurs dizaines de milliers de prêtres qui ont défroqué. C'est des centaines de milliers de ménages qui ont cassé. Qui sont rentrés dans le péché, n'observant plus la loi chrétienne du mariage, parce que Paul VI avait nommé une commission qui, pendant 4 ans, a semé le doute. Et ainsi de suite. C'est toute la vie chrétienne qui est partie. Il y a dans le Vivarais un fabricant de croix de Saint-Benoît, d'objets religieux, disant l'ouverture de Vatican II, ben, dis pas l'ouverture, Vatican II, c'est 80% de notre chiffre d'affaires qui est tombé tout de suite. 80%. Vous me direz, c'est pas essentiel d'avoir une croix de Saint-Benoît, la question n'est pas là, évidemment. Mais tout d'un coup, ça a été une chute terrible. Alors 50 ans après, on ne se rappelle plus ce qu'étaient les paroisses avec une piété, une pratique très, très grande, ça diminuait, mais et puis tout d'un coup, tout est tombé. Tout est tombé. Alors maintenant, il y a des gens qui disent, mais oui, il y a encore quelque chose, vous savez, il y a des gens pieux, Dieu merci, etc., mais qui ont oublié ce que c'était. Et des gens qui vont trouver dans la nouvelle messe de la piété sont des gens qui ont oublié ce qu'était la messe traditionnelle, ce qu'était ce caractère éminemment sacré du sacrifice offert sur l'autel par le prêtre auquel toute l'assemblée s'unit dans le recueillement et dans l'immolation intérieure. Alors quand on a oublié ce qu'est l'eau pure, eh bien, on peut trouver du goût à l'eau boueuse. C'est vrai, mais il faut nous dire que Vatican II, ce n'est pas uniquement des textes sur lesquels on discute, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est bien dit, est-ce que c'est mal dit. Ça a été une chute effrayante. Une chute effrayante, donc, de la pratique, une chute de l'esprit chrétien, une chute de la foi catholique. Et ça a été un vent de folie terrible. Un vent de folie terrible. En France, je ne connais pas bien l'étranger, mais en France, les catéchismes, en 1966, le catéchisme nouveau catéchisme fait par les évêques français était un catéchisme arien. On ne peut pas dire aux petits-enfants que Jésus-Christ est Dieu. Et on apprend ça en troisième année, en quatrième année de catéchisme. Jésus, c'est d'abord un homme, quelqu'un de bien, c'est un ami, c'est un copain, et puis petit à petit, on nous révèle qu'il est Dieu. Mais le catéchisme arien, des catéchismes qui vont nier la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et tout est à l'avenant. Les marques d'adoration, les marques de respect, les marques du sacré, c'est fini. Alors il faut reconnaître le fait. Et je crois que c'est la chose la plus importante, et en tout cas c'est celle que je voulais dire. N'inventons pas des nouvelles doctrines, n'inventons pas une euphorie qui n'existe pas, n'inventons pas une identité, l'important c'est qu'on reconnaisse notre identité. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est adhérer pleinement à l'Église. Et on adhère à l'Église par la foi et par l'espérance et par la charité. Par la foi d'abord, par l'intégrité de la foi. C'est pas moi qui dis, c'est saint Augustin qui dit « L'intégrité de la foi est une chose rare. » Saint Augustin qui dit ça. Des gens qui vraiment professent l'intégralité de la foi catholique, de la révélation divine. Et puis on adhère à l'Église par l'espérance, par cet élan de la vie vers la vie céleste. Notre vie sur la terre, ce n'est pas la vraie vie. Il y a beaucoup de choses sympathiques sur la terre, on va en goûter tout à l'heure dans des verres. Il y a beaucoup de choses extrêmement sympathiques sur la terre, la question n'est pas là. Mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie du ciel. C'est pour ça que le bon Dieu nous a créés. Sinon, ce serait un peu absurde, passer 50, 60, 70 ans, 80 ans sur la terre, et puis retourner dans un trou. La vraie vie n'est pas ici-bas. Nous adhérons à l'Église par l'espérance. C'est la mentalité catholique, c'est une mentalité d'espérance. Ce que le monde ne peut pas supporter, c'est l'espérance. Il dira la foi, chacun sa vérité, c'est pas très grave, etc. Il dira la charité, oui, on est solidaire, poum poum poum. Mais l'espérance, quelqu'un qui vit pour le ciel, quelqu'un qui ne met pas son cœur dans les choses ici-bas, c'est incompréhensible. Et puis, nous adhérons à l'Église par la charité. Mais la charité, c'est ce qui fait l'unité de l'Église du ciel et de l'Église de la terre. C'est aussi ce qui fait l'unité de l'Église de la terre. Saint Thomas d'Aquin lorsqu'il se demande qu'est-ce que c'est que le péché de schisme, il dit c'est un péché contre la charité qui fait l'unité de l'Église, l'unité de sa hiérarchie, l'unité de sa foi, l'unité de sa hiérarchie, l'unité de sa pratique, l'unité, c'est la charité qui fait l'unité de l'Église. Et le péché de schisme est un péché contre la charité. Il consiste à se séparer de l'autorité légitime ou bien à ne plus se comporter comme un membre de l'Église. Ne se comporter comme étant un chef de l'Église alors qu'on ne l'aime pas. Ou se comporter comme quelqu'un qui n'avait pas besoin des autres, etc. Tout seul, moi vous comprenez, le bon Dieu et moi, nous nous comprenons. Alors je me suis fait ma petite religion dans mon coin, et puis voilà. Ne plus se comporter comme un membre de l'Église, mais comme un protestant, puisque la définition du protestantisme, c'est que chaque protestant est son propre pape, puisque c'est lui qui est infaillible pour interpréter lui-même directement la révélation divine, sans le secours du magistère de l'Église. Donc il faut que nous adhérions de tout notre cœur à l'Église, et que nous refusions ces faux semblants, ces fausses négociations, ces fausses tergiversations qui viennent détruire la foi, qui viennent détruire l'unité de l'Église, et c'est là quelque chose de très dommageable. Charles Péguy, je ne suis pas très péguiste, et puis disait tout commence en mystique et finit en politique. Et on a l'impression que la résistance aux nouveautés de Vatican II, à cette nouvelle religion, a commencé en mystique, pour des raisons de foi, en disant nous ne voulons pas perdre la foi, nous voulons vivre catholique et mourir catholique. Et puis que ça a dégénéré dans une sorte de politique catholique. Est-ce qu'on se réunit, est-ce qu'on se réunit pas, on va négocier, on négocie pas, et là-dedans on oublie la doctrine. Alors je crois que, je terminerai là-dessus parce que c'est une causerie, il faut bien que vous causiez un peu vous aussi, je crois qu'il faut voir que dans ces négociations de la fraternité Sabellis, qui vont peut-être se débloquer cet été, parce que c'est comme les impôts, ça augmente toujours pendant les vacances. Et donc, dans ces négociations, il y a un grand absent, c'est la doctrine. Vraiment le grand absent. Il y a un grand perdant, c'est le peuple chrétien. Réellement, c'est le peuple chrétien. Et puis, il y a un esprit de politique ecclésiastique qui n'est pas l'esprit de l'Évangile. L'esprit de l'Évangile, c'est est non. Il faut rendre témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les saints l'ont fait, tous les martyrs l'ont fait, et ce sont eux qui ont converti le monde, ce sont eux qui ont fait régner notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça aussi, ça ne change pas. Si nous voulons faire régner notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il faut que nous portions ce témoignage que notre Seigneur ne change pas, que l'Église ne change pas, que la foi ne change pas, que ce n'est pas une question de politique, c'est une question de la vérité, de la vérité de notre Seigneur. Quelqu'un a-t-il des questions à poser?
Est-ce que vous croyez qu'a priori Mgr Fellay est de bonne foi, ou est-ce qu'il fait partie d'un système
maçonnique, par exemple? Je ne connais pas la réponse, je vais vous faire une confidence que vous ne répéterez à personne, je ne suis pas le bon Dieu. Alors, je ne connais pas la réponse, mon avis, c'est qu'il est de bonne foi dans un système de mauvaise foi. C'est-à-dire que je pense qu'il veut faire le bien, la question n'est pas là, mais que les fausses doctrines qui, depuis 40 ans, minent la résistance catholique, eh bien, minent l'intelligence de la foi. Et que ça, c'est quelque chose de terrible. Les fausses doctrines ne sont pas simplement des erreurs qui nous restent extérieures, et c'est pas bien, ça mine l'intelligence. Quand on dit, pendant 40 ans, on n'est pas obligé d'obéir au pape, et puis tout d'un coup, il se souvient qu'il y a un pape. Alors, peut-être qu'on va se mettre à obéir au pape. Mais le pape dit, attention, il faut obéir. Ah non, bah alors du coup, on n'obéit plus au pape. Et ce genre de choses-là, ça détruit l'intelligence. Maintenant, en plus, il y a une place à laquelle je n'aimerais pas être. Parce que, il a, on dit trois, toute l'Église, trois évêques, des prêtres. Les prêtres, c'est absolument ingouvernable. Par l'expérience, c'est absolument ingouvernable, il n'est pas dans une situation facile, mais justement, si on ne dit pas d'abord c'est la vérité, si on commence à faire des manœuvres, à vouloir en interne réunir le plus de troupes possible, et de faire des négociations de telle façon qu'on amène à l'intérieur à accepter, comme on a l'impression que Benoît XVI fait pareil de son côté, parce que l'épiscopat s'oppose à cela, et qu'il fait... Alors, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. ça qui est terrible. Alors, sa bonne foi, je suppose, mais qui est gauchie par des fausses doctrines. Et on ne peut pas faire de bien à long terme avec des fausses doctrines, c'est pas possible. Mais je ne le soupçonne pas du tout de pensée machiavélique. Mais maintenant, on a dit longtemps de Paul VI ou de Jean-Paul II, c'est pas eux, c'est leur entourage. Peut-être qu'il est prisonnier d'un entourage, parce que tous les cadres de la fraternité sont ses créatures, entre guillemets. C'est lui qui les a choisis, c'est lui qui a choisi l'économe général, et qui a choisi celui qui commande l'économe général. Je connais bien l'économe général, c'est mon cousin Germain. Et celui qui commande l'économe général est tout, et qui est peut-être totalement prisonnier. Il y a des bruits qui courent là-dessus, plus que des bruits, mais je ne peux pas le garantir, je n'en sais rien. Je ne pense pas qu'il veuille le mal, mais je pense qu'il a plus de doctrine suffisante pour savoir où est le bien. Et que là, il dit nous arrêtons les négociations. Bon, c'est peut-être supposons que c'est un arrêt définitif. Le fait de ces tergiversations et de ces secrets a fait dans la fraternité Saint-Denis une fracture qui ne va plus se combler. Et que dans n'importe quelle société, on dirait monsieur, on vous aime bien, mais démission déjà. Vous n'êtes plus capable de faire l'unité de la société, partez. Ben, redevenez simplement démissionnaire parce que Le premier rôle de l'autorité, c'est de faire l'unité.
Alors, si on peut supposer ne pas mettre en cause la bonne foi de Mgr Fellay, on ne peut pas en dire autant du pape et de son entourage, parce qu'a priori, le pape est prisonnier de son entourage.
Oui, je ne sais pas. On dit au contraire que c'est un homme à la science éminente. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il l'est. Mais il est aussi prisonnier de ce qu'il veut être, la continuité de Vatican II. On a affaire à deux parties, chacun s'accrochant à des erreurs dont ils ne veulent pas démordre. Et c'est insoluble. C'est insoluble. Et quelle que soit leur qualité personnelle, leur bonne volonté personnelle, il faut commencer par déposer l'erreur. Saint Thomas d'Aquin se demande, plus d'une fois d'ailleurs, comment doit agir quelqu'un dont la conscience est faussée. Quelqu'un qui est persuadé que tel acte est un péché mortel et qui en même temps est persuadé que tel acte, il faut qu'il le fasse. Il dit, alors qu'est-ce qu'il fait? Et s'il fait l'acte en disant c'est mon devoir, il va commettre un péché mortel parce qu'il croit que c'est un péché mortel. Et puis s'il ne le fait pas, il dit, je ne fais pas mon devoir, je commets un péché mortel. Comment m'en sortir? Et saint Thomas d'Aquin a toujours la même réponse. La première obligation, c'est de déposer la conscience faussée. C'est la première obligation, c'est d'avoir une intelligence droite. Parce que sinon, c'est ça. On se trouve dans des cas impossibles, où des gens qui peuvent être de bonne foi, des gens qui peuvent être vouloir le bien, ne voient plus quel est le vrai bien, ne voient plus ce qu'il faut faire, et c'est une impasse. C'est une impasse, et que je ne vois pas comment être d'un côté ou de l'autre, parce qu'il faut être en dehors de cela.
Donc isolé.
Donc forcément isolé. Donc forcément en union avec l'Église de tous les siècles, l'Église triomphante, l'Église souffrante et tous ceux qui ont la foi catholique, parce que Dieu merci sur la terre, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi et qui s'ils ont la foi catholique, je me sens en communion fondamentale avec eux, même si je me bagarre avec eux par-dessus, mais parce que c'est cette communion dans la foi catholique. Et qu'il y a beaucoup de gens qui gardent la foi en souffrant, parfois un peu désespérés. Mais évidemment que humainement, c'est forcément isolé. Et s'il le faut, les martyrs se retrouvaient isolés dans des prisons, etc. Avec toutes les ruses, on va faire croire que tous les autres ont cédé, ont apostasié, pour les faire céder, apostasier, mais ils n'en croyaient rien.
Je crains que ceux qui sont désorientés, en fait, c'est une poignée, c'est-à-dire nous. Mais le milliard catholique baigne dans un bouillon de culture franc-maçon, l'Église, si elle n'est pas, j'allais dire, véritablement franc-maçonne, elle développe des idées franc-maçonnes. Le dernier pape a été le colporteur zélé de toutes les idées franc-maçonnes. Je ne sais pas aujourd'hui si on peut trouver dans l'Église un soutien, un réconfort, un espoir. C'est la société, c'est la civilisation elle-même. Et autrefois, l'Église était devant, la société était façonnée par l'Église. Aujourd'hui, l'Église, elle est façonnée par la société. On voit ce pauvre pape. obligé d'embrasser le Coran, obligé d'aller faire des simulacres, des bêtises devant un mur des lamentations. C'était pas le mur qui était lamentable. Non, mais c'est vrai. Et tout ça pour plaire à une opinion publique. C'est-à-dire qu'on voit, et c'est très affligeant, cette Église du Christ, en train de s'abaisser pour plaire à l'idée du moment. C'est-à-dire pour que les médias ne disent pas trop de mal. Et alors dans ce vent de tout à l'heure, vous connaissiez un tableau tout à fait véritable de l'Église après le Concile Vatican II. Mais je crains malheureusement que ce soit pire que ça.
Oui, oui. Ça. Je suis presque d'accord avec vous, sauf de dire que c'est l'Église du Christ.
Mais c'est pas l'Église du Christ. Où est-elle aujourd'hui?
Ben, l'Église ne change pas. L'Église a les promesses de la vie éternelle, ça c'est sûr. Nous nous trouvons, il n'y a plus de civilisation chrétienne, et c'est vrai qu'elle était un rempart très grand pour l'Église. Ce qui fait que beaucoup de membres de l'Église sont partis dans la civilisation maçonnique, comme vous le dites bien, c'est la civilisation où il n'y a pas de vérité, c'est la civilisation, c'est vrai. Et la maçonnerie a triomphé de ce côté-là, il n'y a plus besoin d'être franc-maçon, parce que les idées de tout le monde, c'est les idées maçonniques. Mais l'Église elle-même, le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'épouse de notre Seigneur, c'est qui est sans tâche. Donc, si les membres de l'Église sont partis, si l'autorité peut ne plus s'exercer dans l'Église, l'Église elle-même n'est pas affectée par cela. Pour prendre une comparaison, la crise arienne a été terrible, puisque ce qui a été encore plus terrible que l'arianisme, c'est le semi-arianisme. C'est à propos du semi-arianisme que Saint Jérôme a dit et que l'Église c'est presque tout entière, enfin, l'Église en sens sociologique du terme, c'est tout entière réveillée arienne. Le semi-arianisme, l'arianisme n'a pas tellement pris parce que c'était trop radical. Dire Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est une créature, ça passe pas. Mais le semi-arianisme, Jésus-Christ est une créature divine. C'est un Dieu créé, enfin je ne sais pas comment il disait. Ça a eu un succès effrayant, de telle sorte qu'on pouvait humainement penser que l'Église allait sombrer là-dedans. Mais tous ceux qui étaient passés à l'arianisme, ils n'étaient plus dans l'Église. Ils étaient peut-être encore sociologiquement ceux qui occupaient les places. Mais ils n'étaient plus dans l'Église. Et ce qui a guéri, enfin, vous êtes professeur d'histoire, je vais vous donner des leçons. Mais ce qui a dans l'Église cassé c'est l'arianisme, c'est la persécution de Julien l'Apostat. C'était une chose assez extraordinaire. Julien l'Apostat n'a pas duré longtemps, 30 mois, il me semble. Mais ça a cassé. La persécution sanglante, le sang des chrétiens, qui sont morts martyrs sous Julien l'Apostat, nous en célébrons deux aujourd'hui, Saint Jean et Saint Paul, martyrs. Sous Julien l'Apostat, ce sang des chrétiens a cassé l'arianisme immédiatement après. C'est la grande époque des saints Jean Chrysostome, des saints Basile, des saints Grégoire de Nazianze, des saints Grégoire de Nice. C'est immédiatement après, tout d'un coup, une efflorescence extraordinaire de foi et de science ecclésiastique. Et nous nous trouvons dans une situation qui est pire que du temps de l'arianisme, parce que du temps de l'arianisme, le souverain pontife ne professait pas l'arianisme, évidemment. Et maintenant, on a l'impression que tout y est passé, et nous trouvons dans une situation pire, et c'est humainement désespérant, mais il y a peut-être un Julien l'Apostat qui va arriver, et qui va faire, pas par lui-même, mais par contre-coup, que les choses se rétablissent, je n'en sais rien. Mais l'Église du Christ, elle n'est pas atteinte par l'erreur, elle n'est pas atteinte par la trahison des hommes, elle n'est pas atteinte parce qu'elle demeure identique à elle-même. Et c'est cela, la foi, c'est ce qui nous fait espérer, sinon. Une des preuves de la divinité de l'Église catholique, c'est qu'elle continue à demeurer identique à elle-même, avec des gens qui l'aiment, des gens qui veulent mourir pour elle, j'espère que nous en sommes tous, malgré la crise terrible qu'elle subit. Elle ne meurt pas alors que, humainement, toutes les conditions sont placées pour qu'elle meure. Pour prendre une comparaison, enfin, c'est pas une comparaison, c'est notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. La divinité de notre Seigneur Jésus-Christ s'est manifestée tout au long de sa vie. D'une façon différente, mais tout au long de sa vie. Notre Seigneur, au moment de son agonie au Jardin des Oliviers, la divinité de notre Seigneur n'était pas très visible. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, elle était visible en ce sens que notre Seigneur n'est pas mort au Jardin des Oliviers. Il a dit à ses apôtres, en entrant au Jardin des Oliviers, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et notre Seigneur n'est pas de Marseille. Ce qu'il dit, ce n'est pas une exagération. Selon les causes naturelles, il aurait dû mourir d'angoisse, de tristesse, parce que la sueur de sang est un phénomène inouï et qui ne peut pas, qui devrait faire mourir. Et notre Seigneur n'est pas mort dans son agonie, prouvant qu'il était Dieu, le maître de la vie. Toutes les causes étaient posées, toutes les causes humaines, biologiques, psychiques, tout ce qu'on veut, étaient posées pour qu'il meure et il n'est pas mort. Eh bien, on peut dire, l'Église catholique, comme société aujourd'hui qui a perdu tout crédit dans le monde, où il n'y a plus de civilisation chrétienne, où la plupart des membres de l'Église, eh bien, ont déserté la foi, l'Église ne meurt pas. Il y a toujours des gens qui veulent, qui ont la foi catholique, qui veulent conserver la foi, qui veulent pratiquer la religion catholique, qui veulent mourir martyr pour l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle ne meurt pas, elle est hors d'atteinte. Mais sociologiquement, vous avez raison, c'est une faillite terrible. Mais c'est dans les faillites que le bon Dieu révèle sa toute-puissance. La croix, c'est la plus grande faillite de l'histoire, c'est la plus grande victoire de l'histoire. Alors sociologiquement, vous avez raison, mais ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Ah non, non, l'Église de Jésus-Christ, elle est l'épouse sans tache ni ride. Ce sont des chancres qui adhèrent, non pas sur elle directement, mais sur ceux qui devraient avoir l'autorité, ceux qui devraient prêcher la vérité, ceux qui devraient concourir au bien, ceux-là ne le font pas. Alors c'est une sorte d'immense chancre, mais qui n'affecte pas l'Église en elle-même. Oui, madame.
Les enfants ont préparé des questions.
Ah, mais je vous en prie.
Alors, l'archon de 14 ans qui vous demande, pensez-vous que Jean-Paul II soit vraiment le pape ?
Jean-Paul II est mort, alors son... Non, je crois que Benoît XVI est privé de l'autorité pontificale parce que c'est incompatible avec la nouvelle religion qu'il prêche. Sans porter de jugement sur lui-même, sur sa personne, ni même sur sa bonne volonté, je crois que si Benoît XVI avait l'autorité pontificale, je me précipite à Rome pour aller lui demander l'absolution de mes censures et lui demander ce que je dois faire. Et il me dira, il faut adhérer à Vatican II, à la liberté religieuse, et je lui dirai, non, c'est pas possible. Mais, non, c'est... Je ne crois pas. Si je le croyais, je ne serais pas là. Je dirais, je fais fausse route de A à Z.
Croyez-vous à la validité de la nouvelle messe ? Et autre question, pensez-vous que l'on doit refaire faire un séminaire aux prêtres modernes qui se rallient à vous ou à la fraternité Saint-Église ?
Alors, pour ce qui est de la nouvelle messe, est-ce que je crois à la validité de la nouvelle messe ? Non. Sans en avoir la certitude absolue, je ne crois pas et je vais vous donner la raison. Saint Thomas d'Aquin dit que c'est la foi de l'Église catholique, qui fait l'efficacité des sacrements, qui met en relation Jésus-Christ, qui est la source de l'efficacité des sacrements, avec le signe sacramentel. C'est la foi de l'Église. Quand le ministre d'un sacrement veut faire ce que fait l'Église, c'est qu'en fait, il veut faire ce qui est la foi de l'Église. C'est un acte de foi, mais qui est inscrit dans le rite de l'Église, qui est une profession de foi. Et le nouvel ordo de Paul VI est un rite qui est protestant. Ce n'est pas à moi qu'il le dit. Il a été confectionné avec l'aide de 6 protestants. Il y a des tas de pasteurs protestants qui ont dit quand il est paru, « Ah, autrefois, on ne pouvait pas célébrer la messe. » Évidemment, de toute façon, ils ne sont pas prêts. « On ne pouvait pas célébrer la messe. » Mais maintenant, on le peut tout à fait. Il y a, je me rappelle la lettre d'un pasteur protestant disant, les catholiques croient que leur nouvelle messe vient d'être inventée, mais elle existait au XVIIIe siècle chez les luthériens. C'est un rite protestant. Les paroles de la consécration ont été changées. Et, hasard, les mêmes changements que Luther avait faits. C'est-à-dire la suppression de l'incise Mysterium Fidei dans les paroles de la consécration du vin et l'adjonction du Quod Prohibis Traditur qui sera livré pour vous dans les paroles de la consécration du pain. Faisant de ces paroles un récit historique qui peut être historiquement exact, mais c'est peut-être, mais c'est pas la question, mais non plus des paroles sacramentelles, des paroles efficaces, une action qui se passe ici, maintenant, sur l'autel, le sacrifice de Jésus-Christ est offert. Luther avait l'offertoire en abomination, on a supprimé l'offertoire, remplacé par une présentation des dons qui n'est plus du tout ce sacrifice commencé auquel les fidèles, par lesquels les fidèles s'unissent au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Luther disait, il faut que ce soit la liturgie de la parole qui prenne le dessus. Ben, c'est clair que c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est la nouvelle messe est vraiment le fruit le pire de Vatican II, parce que c'est un fruit qui est réellement protestant d'intention. Il s'agit d'aligner le rite de la messe sur la conception qu'on avait les protestants. Alors, je ne crois pas, je n'aurai pas la certitude absolue, parce que je ne suis pas le bon Dieu, je ne suis pas infaillible. Si vous m'apportez une hostie consacrée à la nouvelle messe et vous me dites marcher dessus, je ne marcherai pas dessus, évidemment. Mais je ne crois pas que ce soit vrai. Et je pourrais vous répondre en plus comme un Belge qui écrivait dans l'itinéraire, Alexis Curvers, qui disait, non seulement je ne crois pas que c'est vrai, mais j'espère que ça ne l'est pas, parce que de sacrilège en moins. Des gens qui vont communier en état de péché mortel, sans être à jeun, etc. Vous voyez maintenant n'importe quelle cérémonie, un mariage, un enterrement, tout le monde va communier, je suis baptisé, je ne suis pas baptisé, j'ai la foi, je n'ai pas la foi, je vis chrétiennement, je ne vis pas chrétiennement, de toute façon j'y vais. Et on dit, mon Dieu, pourvu que ne soyez pas. Que de sacrilège en moi. Mais bon, c'est la conclusion d'un raisonnement. Alors, je n'ai pas une évidence directe. Si vous me demandez si je le crois, je dis non, je ne le crois pas. Et oui, est-ce qu'il faut refaire un séminaire aux prêtres? Eh bien, mon avis, d'abord, qu'il faut faire un deuxième séminaire aux prêtres tradis. Voilà. Et pour les prêtres qui viennent de la modernité, il y a deux problèmes. Il y a le problème de la science ecclésiastique, et il y a le problème de l'ordination. Le rite du sacrement de l'ordre, et particulièrement le rite de la consécration épiscopale, a été bouleversé par Vatican II. C'est même le premier sacrement qui a subi de plein fouet la réforme liturgique, où on a dénaturé le rôle du sacerdoce. Et alors, il y a ce problème, ces nouveaux rites qui ne sont pas traditionnels, qui ne sont pas promulgués par la véritable autorité de l'Église, sont-ils valides? Eh bien, je pense que non, je n'en sais rien absolument, mais je pense que non. Et donc, il y a le problème de la science ecclésiastique, bien sûr, mais aussi le problème de l'ordination. Et c'est un problème réel. Parce que nous avons besoin de. Les sacrements ont besoin de certitude. J'ai besoin de la certitude que je suis prêtre. Et cette certitude, je l'ai par l'Église. J'ai été ordonné par Mgr Lefebvre, qui est un véritable évêque de l'Église, nommé par Pie XII, et l'Église garantit la continuité du sacerdoce depuis les apôtres. C'est dans le catéchisme de Saint Pie X, tout simplement. L'Église garantit l'identité de la doctrine et des pouvoirs de l'Église. Mais à partir du moment où, par le rite ou d'un autre moyen, je me sépare de cette continuité, de cette apostolicité, je ne sais plus. Les sacrements ont besoin de certitude pour que je puisse donner ma foi à la présence réelle, donner ma foi au sacerdoce, donner ma foi à j'ai besoin de certitude. Et le propre de Vatican II, c'est d'avoir introduit au minimum l'incertitude partout. On bouleverse tout avec un esprit protestant qu'on déclare, et la certitude est partie déjà. Et même, c'est été remplacé par... Est-ce que c'est encore un rite catholique? Est-ce que ça contient la foi de l'Église? Ben, je n'en sais plus rien. Et j'ai plus d'autorité pour me garantir. Alors, l'incertitude dans le domaine sacramentel, c'est la même chose que l'invalidité. Parce que si je suis pas sûr, je m'abstiens. Je ne peux pas. C'est pas possible. Je ne peux pas donner quelque chose de douteux. Je ne peux pas donner un baptême douteux en disant après, est-ce que je suis baptisé? Est-ce que je ne suis pas baptisé? C'est pas possible. Alors, pour les prêtres qui ont été formés dans la modernité, il y a aussi ce problème-là. Il y a un certain renouveau, entre guillemets, il y a plus de vocations qu'il y a 20 ans, mais ça n'empêche pas ce problème-là. Que sont-ils réellement? Je ne sais pas. Alors si c'est les questions des études, je propose de faire refaire à tous les prêtres tradis. Ça, oui, peut-être moi aussi j'en ai besoin, hein, je me mets pas en dehors. Mais parce qu'il y a un très grave déficit de connaissances de science. Un très grave déficit.
Parce que, excusez-moi, il reste combien d'évêques valides, entre
guillemets? D'évêques, alors, d'évêques qui ont reçu un mandat apostolique d'avant la révolution de Vatican II, il doit en rester une cinquantaine, qui sont tous bien âgés. Bon, pour l'Église, il en suffit d'un, mais deux. Mais c'est sûr que c'est angoissant, humainement parlant, c'est très angoissant. Enfin, c'est le bon Dieu qui s'en occupe. Mais il y a des évêques qui font réellement partie de la hiérarchie de l'Église, parce qu'ils ont été reçus un mandat apostolique pour en faire partie. Maintenant, après, dans cela, il y en a peut-être qui n'ont plus la foi, qui ont totalement déserté, je ne sais pas. Ça, on a des braves qui ont suivi le mouvement sans perdre la foi pour autant. Mais il en reste encore. Et puis, le bon Dieu ne nous demande pas de sauver l'Église, ni de nous sauver de l'Église, mais de nous sauver dans l'Église. De rester fidèle. En disant, le bon Dieu s'occupe de la pérennité de son Église. Et ça, c'est assuré dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de faire régner notre Seigneur Jésus-Christ, la vérité. Mais c'est le bon Dieu qui s'en occupe lui-même. Quelqu'un qui dit je vais sauver l'Église, il a déjà tout faux.
Est-ce qu'on peut rester fidèle dans la fraternité, Saint-Église ? J'espère.
Bon, il faut rester fidèle dans l'Église. Quelqu'un qui a trouvé dans la fraternité Saint-Pédis, et il va dire oui, ben, ça m'a rendu service. Maintenant, est-ce qu'on ne m'enseigne pas des erreurs dedans ? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de. Là, il faut se poser la question. Parce que la fraternité Saint-Pédis n'est pas l'Église. Et donc, ce n'est pas à la fraternité Saint-Pédis ou à autre chose qu'il faut appartenir. C'est à l'Église catholique. C'est elle qui a les critères. C'est elle qu'il faut rechercher. Et voilà. Et maintenant. Le bon Dieu a pu se servir de la fraternité Saint-Pédis à des âmes pour vraiment retrouver la foi, la pratique, mais comme une marge d'escalier en disant, attention, il y a des erreurs dedans, il faut peut-être aller plus haut. De toute façon, aucun laïc n'appartient à la fraternité Saint-Pédis. La fraternité Saint-Pédis est une société de clercs. Donc les laïcs ne sont pas... La fraternité Saint-Pédis n'a de juridiction sur personne. Alors, en supposant qu'elle n'ait pas de problème canonique, qu'il n'y ait pas de problème d'autorité, de toute façon, par nature, elle n'a de juridiction sur personne. Aucun fidèle n'est le paroissien de la fraternité Saint-Pédis, ou le diocésain de la fraternité Saint-Pédis. Rien. Elle n'a aucune juridiction sur personne. Dans la fraternité, il n'y a que les prêtres qui peuvent dire « je suis dans la fraternité », ou les frères. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la fraternité véhicule des erreurs doctrinales qui sont graves et qui sont à long terme sont destructrices. De dire le pape n'est jamais infaillible, de dire la juridiction on peut l'obtenir en dehors de l'autorité légitime, de dire que sais-je encore, les canonisations ne sont pas infaillibles, ça c'est contraire à la doctrine catholique.
Je vais poser une petite question plutôt en marge du sujet. C'est que récemment, avec les différents courants d'opinion concernant ces discussions doctrinales, sachant que maintenant, enfin, c'est reconnu que la fraternité Saint-Pédis a une aile gauche, une aile droite, des féministes, des lefèvristes, des williamsonistes, etc., on a avancé une simple solution. Il faut suivre Mgr Follet parce qu'il a les grâces d'État. Et c'est sur cet argument-là que j'aimerais demander vos lumières, parce que, bon, il est vrai que vous aviez évoqué le problème que la fraternité Saint-Pédis n'a pas vraiment de statut canonique. Mais toutefois, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le fond de cet argument de grâce d'État, nous mettons notre confiance en celui qui a les grâces d'État, parce que je constate qu'en fait, comme vous le savez, j'ai souvent mon nez dans un livre de théologie, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir souvent rencontré des explications de ce que sont les grâces d'État, ni ce que ces grâces d'État garantissent, etc. Oui. Donc en fait, qu'est-ce que ça vaut cet argument ?
Les grâces d'État ne garantissent rien et tout à la fois. Je vais vous donner un exemple très simple. Un père de famille a des grâces d'État. Il a des grâces d'État pour son État, pour diriger sa famille, pour éduquer ses enfants. Une mère de famille a des grâces d'État. Et que toute personne qui a un État et qui veut accomplir le bien et qui demande au bon Dieu la grâce de bien l'accomplir, cette personne-là, eh bien, le bon Dieu n'abandonnera pas de sa grâce. Et donc, il aura des grâces d'État. Mais le mot grâce d'État est un mot très, très, très vague. Parce que les véritables grâces d'État sont les grâces sacramentelles. Donc dans des États qui sont produits par des sacrements. Un baptisé a des grâces d'État de baptiser pour être fidèle aux grâces de son baptême, pour vivre selon notre Seigneur Jésus-Christ. Un confirmé a des grâces d'État pour porter témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Un marié a des grâces d'État pour se sanctifier dans le mariage. Un prêtre a des grâces d'État pour se sanctifier dans le sacerdoce parce que dans le sacrement, il a reçu une sorte de droit, enfin, les théologiens se se dispute un peu là-dessus, mais, soit une provision dans laquelle il peut puiser, soit un droit à recevoir les grâces au fur et à mesure. Et il y a véritablement des grâces d'État dans ce qui est des choses sacramentelles. Il y a aussi des grâces d'État dans ce qui n'est non sacramentel, mais ce qui est une vraie juridiction reçue de l'Église. Le pape a des grâces d'État pour gouverner l'Église. Mais là encore, ça ne garantit pas. Déjà, les grâces sacramentelles ne garantissent pas qu'un prêtre sera un saint, qu'un père de famille éduquera bien ses enfants. Il faut la prière, il faut qu'il soit fidèle à ses grâces d'État. Donc l'argument des grâces d'État, c'est une sorte de bulle de savon pour faire marcher les braveurs. Parce que Mgr Fellay a de fait une place d'autorité dans la Fraternité Sapidis, sans rentrer dans le domaine canonique, de fait. Mais il doit demander au bon Dieu de l'éclairer, pour que ce soit conforme à la vérité, au bien et tout. Mais il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie qu'il le fera bien. Dans l'Église, personne ne donne au pape le privilège de l'impeccabilité. On lui donne celui de l'infaillibilité, mais pas celui de l'impeccabilité. Or, on a l'impression que là, la grâce d'État, non seulement c'est l'infaillibilité, mais c'est l'impeccabilité. Donc c'est quelque chose de trop vague, quelque chose de trop aléatoire, et qui dépend de dispositions personnelles pour qu'on puisse faire un argument. L'argument vaut rien. Surtout que personne n'est... Mgr Fellay n'est l'ordinaire de personne. Même s'il a une situation de fait, il n'est l'ordinaire.
Encore le futile.
Comment ?
Encore le futile, comme vous le dites, oui. Les ordinaires, il peut leur arriver de se tromper.
Ah ben oui, c'est l'histoire de l'Église. Il y a quelques exemples dans l'histoire de l'Église, oui. Généralement, les hérésiarques s'arrangent pour être ecclésiastiques. Je n'ai pas dit que les ecclésiastiques s'arrangent pour être hérésiarques.
Alors, ce qui m'inquiète, c'est plutôt la succession des évêques de la... C'est-à-dire que lorsqu'ils seront trop vieux, lorsqu'ils vont mourir, comment va se faire le renouvellement? Et j'ai peur que la fraternité, à ce moment-là, soit complètement phagocytée par l'Église médiatique, l'Église du siècle.
Oui, oui.
Parce qu'il n'y aura plus cet esprit de Mgr Lefebvre, de courage, de savoir avoir des attitudes qui sont en rupture avec la pensée commune dominante du moment, quoi. Voilà.
Ça, oui. Moi, je ne m'inquiète pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Je pense, contraire à la constitution de l'Église, qu'il y ait des évêques qui étaient sacrés sans un mandat pontifical. Parce qu'un évêque est par nature un membre de la hiérarchie de l'Église. Il reçoit un pouvoir sur le corps mystique de Jésus-Christ, qui est un pouvoir hiérarchique, et que le premier rôle d'un pape, dit Pie IX, pardon, c'est de faire des évêques. C'est de constituer la hiérarchie catholique. Or, ces évêques-là ont été sacrés sans mandat pontifical, et, si vous voulez mon avis, ils ne sont pas des évêques catholiques. Ils sont des catholiques évêques. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas catholiques. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas évêques. Mais je dis, ils ne sont pas des évêques de l'Église catholique. Parce qu'ils n'ont pas reçu, ils ne sont pas successeurs des apôtres, ils n'ont pas reçu cette apostolicité qui ne peut être donnée que par le souverain pontife. Et que la fraternité Sapidis ne gagne rien à avoir des évêques du point de vue de la rigueur doctrinale, du point de vue de l'esprit de Mgr Lefebvre. Mgr Lefebvre, lui, était nommé, il avait un mandat pontifical. En 1947, Pie XII lui a donné un mandat pontifical pour être sacré évêque. Et là, on se trouve dans un cas où ça relève de la constitution de l'Église. Le pape Pie VI dit que c'est un dogme, Léon XIII dit que c'est la constitution de l'Église, Pie XII dit que c'est une loi divine, toutes choses qui sont des choses immuables. Et je vous disais tout à l'heure, dans le temps de brouillard, dans le temps de l'épreuve, dans le temps de doute, la première chose, c'est de dire ce qui ne peut pas changer ne change pas. Et ça, c'est un point qui ne peut pas changer. Et je crois que cette déliquescence doctrinale que nous regrettons, elle vient aussi de la présence d'évêques en disant, ben, de toute façon, on peut durer 100 ans, on peut durer 150 ans, parce que de toute façon, on a des évêques, et les évêques, ça se renouvelle. Les prêtres, ça ne se renouvelle pas. Les évêques, ça se renouvelle. Et il y a une sorte de désintérêt de l'ensemble de l'Église en disant, de toute façon, on peut durer autant qu'on veut. Ce qui est faux. On ne peut pas se passer de pape, on ne peut pas se passer de magistère, et, pendant trois générations, ce n'est pas possible. Mais il faut se dire d'abord que le bon Dieu existe encore. Oui, c'est une nouvelle que je vous donne. Mais bon, le bon Dieu existe encore.
Si les évêques ne sont pas évêques et que le pape n'est pas mon pape,
Et que l'Église demeure identique à elle-même, et que je crois qu'il faut dire, ben là, non, c'est la constitution de l'Église.
Et si je suis des prêtres aussi.
Je le crois, mais c'est mon avis personnel, oui. Mais c'est la première génération, mais quand on sera à la cinquième génération, qui nous le dira.
Mais vu le nombre de prêtres dans la fraternité, comment se fait-il qu'il n'y en ait pas plus qui réagissent? Qu'est-ce qui freine leur réaction?
J'en sais rien, madame. J'en sais rien. On risque fort de faire des jugements téméraires, parce que il y a, je crois, un défaut de science. Il y a des prêtres très intelligents et tout, mais ils étudient dans une optique particulière qui est celle de la fraternité. Hein, le critère de vérité, c'est qu'est-ce que Mgr Lefebvre aurait dit, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il aurait dit. Et alors que c'est qu'est-ce que l'Église a dit, qu'est-ce que l'Église dit. Puis l'avantage avec l'Église, c'est qu'elle existe encore, donc elle nous dit encore, et puis qu'elle ne s'est jamais contredite. Donc, et puis il y a le fait aussi que, je ne sais pas, il y a des habitudes mentales, il y a un cadre qui peut être bénéfique du point de vue spirituel, il y a une facilité matérielle, il y a, je ne sais pas, il faut aller leur demander à eux.
Mais c'est régulièrement quand même qu'on entend dire qu'il y a des tractations entre Vatican II et entre Benoît XVI et la fraternité. Et pourtant, je crois, c'est souvent qu'on entend dire.
Oui.
À chaque fois, ça échoue. Alors, ça prouve quand même que la fraternité reste quand même solide sur certaines choses, non?
Elle reste solide sur certaines choses, bien sûr. Mais chaque fois, je trouve qu'on descend d'une marche. Oui. On s'approche de plus en plus du feu. Et, parce que là, il semblait que Mgr Follet disait oui, je souhaite que Vatican II ne soit pas contraire à la tradition, enfin, mais on a l'impression que ça flageole de plus en plus, mais ce que psychologiquement je comprends tout à fait, parce que enfin on finit par se dire mais enfin le pape c'est quand même le pape, je veux dire, quand on va dire oh, vous n'allez pas vous rallier au pape, mais désolé, mais c'est le béaba du catholicisme de se rallier au pape. Alors ça, on s'use parce que on est sur des faux principes. Alors la fraternité Saint-Pélis fait du bien, je ne veux pas dire le contraire, la question n'est pas là, mais je dis elle véhicule des fausses doctrines, et que ça, il faut dire c'est faux, et il faut essayer d'éclairer les prêtres de la fraternité Saint-Pélis dans la mesure où on peut. Ben. Oui.
Mais comme il paraît que nous sommes plusieurs à nous interroger sur comment on va faire d'ici 25 ans, 35 ans, 50 ans, est-il possible que cette crise continue indéfiniment dans l'état actuel, et sinon, quelles limites pouvons-nous nous promettre?
Chaque fois qu'on promet une limite, c'est comme la fin du monde chez les témoins de Jéhovah, ça recule toujours. Mais, l'Église du Concile de Trente est constituée par les évêques, les prêtres et les ministres. Donc il faut qu'il y ait dans l'Église des évêques, c'est marqué au pluriel, donc il en faut deux, des prêtres et des ministres. Bon. Donc ça, c'est la limite qui tient à la constitution de l'Église, et on voit bien que je ne sais pas ce que le bon Dieu a dans la manche, mais ce que je sais...
Je n'allais pas dire non plus que l'absence d'un vrai pape, source de vraie autorité dans l'ordre doctrinal, juridictionnel, etc., que cette absence puisse elle-même se maintenir indéfiniment pourvu qu'il y ait des évêques...
Mais c'est que ça va ensemble. Et, puisque le pape fait les évêques autant qu'il fait le magistère...
Et d'autres choses.
C'est que ça va ensemble.
Mais, je suis en train de penser ceci, que dans les arguments apologétiques contre les protestants, on a l'habitude d'avancer l'argument qui, nécessairement, notre Seigneur a donné à son Église un pape, une autorité centrale qu'il représente, parce que l'Église en a besoin.
Oui.
Bon, c'est sûr qu'elle n'en a pas besoin d'un Benoît XVI ou Jean-Paul II, de toute façon, ce n'est pas de cela qu'elle a besoin. Mais elle a besoin d'un vrai pape. Pas évidemment chaque minute, mais il doit y avoir une limite, même mis à part la nécessité de renouveler la hiérarchie pour gouverner, pour enseigner. Pour...
C'est vrai, vous avez parfaitement raison, mais je dis que le fait de renouveler la hiérarchie, c'est un point physiquement constatable. Mais que en soi, la nécessité d'un pape est plus grande. Parce que dans toute société, l'autorité fait l'unité des volontés. Mais dans l'Église, l'autorité fait l'unité des intelligences, en transmettant la vérité de la foi, en étant le pouvoir de magistère. Et donc dans l'Église, l'autorité est bien plus nécessaire que dans toute autre société. Et nous sommes presque payés pour le voir. Nous sommes dans un état d'anarchie qui est effrayant, et où des gens de bonne volonté, de bonne foi, partent dans des directions très différentes, et on oublie la doctrine, et on oublie même maintenant à dire une limite. Je n'irais certainement pas dire, comme l'avait Coach, l'Église peut vivre 150 ans sans pape. Parce que de toute façon, au bout de 150 ans, tout le monde a perdu la foi. Elle ne peut pas vivre sans pape, autant qu'elle ne peut pas vivre sans hiérarchie. Parce que là, je vois une limite physique. Mais c'est un avis qui est un peu arbitraire. Mais
vous ne serez pas là d'ici 100 ans.
Voilà. Je comprends que l'avenir de l'Église dans 30 ans vous préoccupe. Mais moi, il y a longtemps que ça me préoccupe.
Il y a quand même un élément positif au fait que la tradition est sacrée des évêques. Parce que, imaginez, elle ne l'est pas fait. Il n'y aurait pas de prêtre. Il n'y aurait plus de messe. Donc ça priverait tous les gens que ça intéresse de cette fameuse messe traditionnelle. Alors,
et pourquoi vous ne faites pas ce raisonnement dans l'autre sens? Si Monseigneur Lafèvre n'avait pas sacré, d'autres y ont. Est-ce que la crise de l'Église ne serait pas déjà finie? En disant, mon Dieu, ben oui, ils n'ont plus de messe, ils n'ont plus d'évêque, eh bien je mets fin à la crise. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ça a prolongé la crise? Ben ils veulent se débrouiller tout seuls, eh bien qu'ils se débrouillent. Alors je ne dis pas du tout ce que je vous dis est vrai, mais je dis on peut faire le même raisonnement dans l'autre sens.
Si on veut, hein, parce que moi je pense que Mgr Lefebvre était de bonne foi, alors qu'au Vatican on sait que c'est infiltré par les maçons, et là il n'y a plus question de religiosité, c'est de la politique tout simplement ce qui se passe actuellement au Vatican.
Oui, mais que Mgr Lefebvre était plus que de bonne foi, ça, c'est évident, mais mon point de vue est celui de dire est-ce que c'est conforme à la constitution de l'Église qui elle ne change pas. Et bien je dis non, je ne vois pas comment à tourner le problème dans tous les sens, et quand on lit les paroles de Pie XII, qui sont d'une sévérité extrême, et qui dit, quand il condamne les sacres, son mandat apostolique, c'était en Chine, il dit, ce n'est pas en raison des circonstances particulières que je condamne, mais en raison des principes permanents de l'Église que je condamne et que j'ajoute une excommunication. Et ça, je dis, on est dans le brouillard, mais ça ne bouge pas, ça ne change pas. Ça ne change pas, sinon... sinon je dis je fais des évêques et puis je me passe de pape et puis je continue et puis je fais ma secte. Et donc on a besoin d'évêques, mais on a encore plus besoin d'un pape, et un pape on ne peut pas en faire sacramentellement. c'est le même problème qui se pose, et si on pose un problème de nécessité, l'Église se passe plus difficilement de pape, parce que le pape fait l'unité. Il fait l'unité.
El rito de ordenación de los obispos orientales católicos cambió?
No, creo que no. Pero no sé. No he estudiado la cosa.
¿Pero ahí hay jerarquía o?
¿Hay
jerarquía en ese rito, por ejemplo, con los ortodoxos católicos?
Orientales católicos. C'est possible. Les rites orientaux n'ont pas été affectés, qu'il y ait toute une série valide.
Otra duda, ¿no? Pero ¿Pelei y estos son obispos o no son?
Son obispos, son obispos pero no son de la jerarquía católica.
Ah, o sea, no hay jerarquía.
Oui, madame.
Je voudrais revenir sur les quatre évêques.
Oui.
Est-ce que ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que ça remet en cause les sacrements qu'ils donnent comme,
A priori, non, mais non, je ne crois pas. Mais je vous dis ça de mon opinion personnelle. Et que mon opinion personnelle n'a valeur pour personne. Parce qu'il n'y a plus cette continuité, il y a une certaine rupture dans la continuité de l'Église, et que j'en suis réduit à dire oh oui, ça doit être valide, je raisonne, ça doit être valide, et non plus c'est l'Église qui me garantit que c'est bien la hiérarchie qui est la véritable hiérarchie. Et ça, c'est très ennuyeux. Quand on commence à devoir introduire un raisonnement, alors on introduit un élément humain,
de doute.
Pas encore de doute, non, je ne doute pas, mais un élément humain. Et ça, j'ai besoin d'une certitude divine. Il y a eu dans la vie du clergé un article, une question d'un prêtre qui devait être un statisticien, mathématicien, un probabiliste, enfin de probabilité, je veux dire, en disant voilà, j'ai fait une étude, il y a 99,99% de chances qu'une ordination sacerdotale soit valide. Il y a 99,99% de chances qu'une consécration épiscopale soit valide. Voilà. Si je compte depuis Saint-Pierre, je suis à, là, en moyenne, je sais pas, quand quelqu'un, 5 générations par siècle, donc je suis à la 100e génération, donc je fais le calcul, plan, 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 je cumule ces probabilités, et je fais le calcul, il n'y a qu'une chance sur 2 fois prêtre. Bon, et le rédacteur répondait à fort juste titre que l'Église nous garantit la réalité des pouvoirs. Évidemment, je ne peux pas. J'ai été ordonné prêtre par Mgr Eiffel, qui a été sacré par le cardinal Liénard, qui a été ordonné prêtre par le cardinal Liénard. Je n'ai pas matériellement de moyen de remonter, de voir qu'il n'y a pas eu de rupture à un moment. Quelqu'un qui n'était pas baptisé, quelqu'un qui. C'est impossible. Mais ça fait partie de l'indéfectibilité de l'Église de garantir la continuité et de la doctrine et des pouvoirs sacramentels et tout. Mais à partir du moment où je commence à faire les choses en dehors de cette apostolicité, de cette garantie de l'Église, je me dis, mais alors les raisonnements de ce prêtre deviennent justes. Il n'y a plus cette garantie, c'est ça qui est terrible. Voilà pourquoi la crise de l'Église ne va pas durer éternellement. Non, mais quand va-t-elle finir et comment va-t-elle finir? Je n'en sais rien, mais je sais que c'est conforme à sa constitution. Ça sera avant que l'Église ne disparaisse. Parce qu'elle ne peut pas disparaître, c'est la foi.
À part nos quatre évêques, là, est-ce qu'il y en a d'autres des évêques traditionnalistes, si on peut dire,
c'est pas ce qui manque. c'est pas ce qui manque. Il y a eu, depuis 30 ans, des courants de sacres épiscopaux parallèles venant de Mgr Ngodin Tu, qui était un ancien archevêque de Hue, qui doit avoir, je ne sais pas, 500, un millier de descendants épiscopaux, à peu près, peut-être, mais dans des conditions affreuses, sans pouvoir suivre les lignées, sans savoir exactement. Mais ce n'est pas ce qui manque. Mais ce n'est pas ça qui sauvera l'Église. Parce que l'Église ne peut ne pas dire ma constitution n'assurait pas la continuité, ma constitution n'assurait pas la catholicité, ma constitution n'assurait pas le salut des âmes. C'est pas possible. Elle ne pourra pas dire. Je n'avais pas en moi tout ce qu'il fallait, il a fallu aller chercher sur le côté, à l'extérieur. Ça n'est pas possible.
Le père Gardé Lorlier, que vous avez connu,
oui.
Bon, lui, il a choisi cette voie-là, puisqu'il s'est sacré par Mgr Ngodin Tu. Est-ce que vous avez eu l'occasion, d'échanger avec.
Un peu, mais pas beaucoup.
Quel était le fond, justement, de sa position? Qu'est-ce qui faisait que lui, il se sentait justifié?
Alors, sa position a été en deux temps. Dans un premier temps, et réellement, puis il l'a dit, il s'est fait sacré sous la pression de deux Allemands, pas parce qu'ils étaient Allemands, mais qui étaient Monsieur Heller et Heller, qui l'ont dit, les Russes arrivent, etc., c'est la guerre atomique qu'il faut faire. Bon. Et faites-vous sacré, il s'est fait sacré dans cette optique-là. C'est ce qu'il a déclaré. Il a même signé sa déclaration. Bon. Et puis, petit à petit, il s'est mis à théoriser son sacre, et il le faisait à partir d'une distinction à laquelle je n'ai pas compris, enfin, je n'ai pas compris comment c'était opérationnel, entre la mission et la cession. Et j'en ai discuté un peu avec lui, mais c'était devenu, on va dire, son obsession, hein, en ce sens que c'était devenu le critère de la catholicité. Comme disait quelqu'un, le père Gérard de Laurier, qui était notamment le plus grand théologien vivant, le plus grand. Et quand il s'est fait sacré, l'Église n'a pas gagné un évêque, mais elle a perdu un théologien. En ce sens que toute sa puissance mentale, il l'a mise pour justifier, dans quelques articles, mais peut-être de la mauvaise volonté de ma part, mais je ne vois pas, vraiment je ne vois pas. Et quand je demande aux gens qui me disent ce qu'ils voient, je ne vois pas plus. Je ne vois pas plus, alors... Il a surpris tout le monde, parce qu'encore 6 mois avant, il se moquait finement du père Barbara, qu'on disait vouloir se faire sacrer avec. Et oui, même pas 6 mois avant. Et il a surpris tout le monde, et je crois qu'il s'est surpris lui-même. Parce qu'il n'a pas, pendant 6 mois, il ne l'a dit à personne. Oui, 6 mois. Un peu plus de 6 mois.
Parce que son but, c'était en fait servir d'une sorte de route de secours pour des événements apocalyptiques.
Et oui.
Donc il restait la botte cachée, c'était la raison de son secret au départ.
Je ne sais pas si c'était une unique raison, il ne m'a jamais dit, je ne sais pas. Mais... Enfin, le fait est que ça n'était révélé en public, pas par son fait, en janvier 82, et il avait été sacré en mai 81. Donc il a sacré 3. Un qui est mort, un Allemand.
Stork,
il y en a un qui est parti dans la nature après, et un qui est encore vivant. C'est dommage que nous ne nous soyons pas disputés, parce qu'on pourrait se réconcilier autour d'un verre. On peut quand même le faire. On va réciter un Je vous salue Marie pour clore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Amen.